Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 8e dimanche après la Pentecôte. Et la Sainte Église nous rappelle dans les textes, encore une fois, de l'Ancien Testament, qui sont au bréviaire et qui nous aident à comprendre les textes liturgiques du dimanche. Ces textes nous rappellent la construction par Salomon du temple, du grand temple de Jérusalem. David n'avait pas pu construire ce temple. Et c'est son fils Salomon qui, après 3 années complètes de préparation pour le matériel, pour les matériaux, construisit le temple en 7 années. Il fallut 3 années complètes pour préparer tous les matériaux, surtout les pierres, les cèdres, les cyprès, les bois précieux, l'or en quantité monumentale pour tous les candélabres, les vases sacrés, les plaques d'or qui devaient recouvrir les autels, les toits du temple, les plafonds du sanctuaire. Et quand tout fut préparé, on commença la construction et ce temple prit 7 années complètes à être construit. Eh bien, mes bien chers frères, si Salomon a construit pour le Seigneur un temple digne de lui, nous avons 2 autres temples dont il faut nous occuper. Le premier, c'est le temple de l'autel, le tabernacle. Et le deuxième, c'est notre âme. Alors, si le premier temple, le temple du tabernacle, qui contient la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces du pain, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, si ce tabernacle-là est surtout sous la protection du prêtre, le deuxième tabernacle, le deuxième temple, c'est notre âme. Et celui-là, il est sous notre propre juridiction, sous notre propre protection. Et si le roi Salomon a mis 3 années pour préparer un temple purement matériel, qui ne comprenait finalement que des choses relativement secondaires. Qu'est-ce que contenait le tabernacle du temple saint des saints? Contenait les tables de la loi, bien sûr, ça c'est très important. Et contenait ce saint des saints, contenait aussi, le tabernacle contenait également une urne avec la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Mais si le roi Salomon a pris 7 années pour construire un temple pour garder ces choses qui sont quand même des choses purement matérielles, comprenons, mes bien chers frères, l'importance pour nous de préparer la construction d'un tabernacle bien plus grand, à savoir le tabernacle de l'autel, qui contient non pas les tables de la loi, mais l'auteur des tables de la loi. Celui qui a fait tomber la manne, celui qui a fait fleurir la verge d'Aaron, notre Seigneur Jésus-Christ. Et comprenons que le jour de notre baptême, le bon Dieu a inauguré dans notre âme un tabernacle d'une extraordinaire gloire, d'une extraordinaire beauté. Puisque par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, créés que nous avons été à la gloire du bon Dieu. Pour l'amour et la ressemblance du bon Dieu. Est-ce que nous réalisons, mes bien chers frères, ces choses-là? Est-ce que nous réalisons que le bon Dieu nous a confié la protection, la garde d'un tabernacle bien plus grand que celui que le bon Dieu avait confié au roi Salomon? Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si nous sommes en état de grâce, nous avons dans notre tabernacle, dans notre âme, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui n'était pas dans le tabernacle de Salomon. Alors, puisque nous sommes fils de Dieu par le baptême, Comprenons que cette filiation avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le baptême, qui fait de nous vraiment des enfants de Dieu, puisque sans le baptême, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais seuls les baptisés sont des enfants de Dieu. Donc si nous sommes fils de Dieu par grâce du baptême, par grâce aussi de la charité qui est en nous depuis le baptême, et qui est maintenu en nous par le sacrement de la Sainte Eucharistie, le sacrement de pénitence, comprenons que cette filiation par grâce prépare une autre filiation encore plus haute, la filiation par gloire. Nous deviendrons un jour participants à la gloire de Dieu si nous sommes comptés parmi les élus. Comme il faut, mes chers frères, réfléchir impérativement à ces choses-là, comprenons la grandeur de notre dignité, comme dit Saint Léon pour la fête de Noël. Chrétien, souviens-toi de ta dignité, le prix qui a coûté pour ton rachat. Nous sommes, eh bien, chers frères, nous sommes le tabernacle du Très-Haut par la grâce sanctifiante. Alors, ce préambule nous aide à comprendre cette phrase toute simple que nous trouvons au début de l'évangile du jour, en Saint Luc, chapitre 16. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un économe, et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Il le fit venir à lui et lui dit : Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion. Rends compte de ta gestion. Rede rationem vindicationis tui. Rends compte de ta gestion. C'est qui cet homme ? C'est vous et moi, mes bien chers frères. Cette parabole, c'est vous et c'est moi. Nous aussi, nous avons un poste, nous avons un travail d'économe pour garder, conserver, orner, honorer quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui nous a été confié. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que nous devons conserver et protéger, c'est notre âme en état de grâce. Cette substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté capable de connaître Dieu et de comprendre et de posséder Dieu. Alors, malheur à nous, bien chers frères, si au jour de notre jugement, au moment où le bon Dieu va nous demander, va nous donner cet ordre, rends compte de ta gestion, malheur à nous si de Dieu à ce moment-là, ce jour-là, nous accuse d'avoir dissipé ce bien qu'il nous a confié. Notre âme ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu et c'est Dieu qui l'a créée. Donc il nous faut méditer sur cette parole toute simple. Rends compte de ta gestion. Le bon Dieu viendra comme un voleur au milieu de la nuit, sans prévenir. Il frappera à notre porte, il séparera en nous, dans notre nature, notre corps et notre âme. Notre corps ira pourrir jusqu'à la fin du monde, dans un cimetière, et notre âme sera jugée par Dieu, à l'emplacement exact de notre mort. Et le bon Dieu nous posera cette question que nous attendrons tous, moi le premier, mon enfant, mon fils, rends compte de ta gestion. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés ? Qu'as-tu fait de l'intelligence que je t'ai donnée ? Qu'as-tu fait de la volonté que je t'ai donnée ? Qu'as-tu fait du cœur que je t'ai donné ? Qu'as-tu fait des sacrements que je t'ai confiés, que je t'ai donnés ? Je t'ai baptisé, je t'ai tiré du lot pour faire de toi un fils de Dieu, un enfant de Dieu par le baptême. Qu'as-tu fait de ce caractère d'enfant de Dieu que tu as reçu? Je t'ai donné le caractère de soldat du Christ par la confirmation. Qu'as-tu fait de ce caractère? Je t'ai nourri par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Je t'ai pardonné de nombreuses fois tes péchés par le ministère du prêtre, par le sacrement de la confession. Qu'as-tu fait de tous ces dons que je t'ai reçus? Qu'as-tu fait de tous ces dons que je t'ai donnés à toi et que je n'ai pas donnés à des millions de personnes? Des millions et des millions de personnes passeront sur la terre sans jamais recevoir le don du baptême, le don de la confession, le don de la foi catholique, le don de la charité que je t'ai donné. Rends compte de ta gestion. Rappelez-vous, mes bien chers frères, les paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ utilisait pour nous faire comprendre ce grand mystère, ce sont les paraboles des vierges sages et des vierges folles. Et les vierges folles représentent ceux et celles qui ne sont pas prêts au moment où le bon Dieu vient leur demander de rendre compte de leur gestion, parce que ces personnes n'ont pas d'huile pour alimenter la lampe à huile de leur âme. Alors elles sont obligées, ces personnes sont obligées d'aller chercher de l'huile, et au milieu de la nuit, alors qu'elles sont allées remplir leur réserve d'huile, l'époux arrive, rentre dans la salle du banquet, et la porte est fermée. Et quand nous arrivons devant la porte du banquet, la porte est fermée à double tour, nous frappons, et notre Seigneur Jésus-Christ de nous dire « Je ne vous connais pas ». Malheur à nous, bien chers frères. Malheur à moi, si le jour de ma mort, le bon Dieu me dit « Je ne te connais pas ». Je ne te reconnais pas comme un de mes enfants, parce que ton âme est souillée par le péché. Parce que tu as méprisé pendant toutes ces années passées, tu as méprisé mes dons, tu as méprisé mes grâces. Tu n'es pas préoccupé de la seule chose qui était vraiment nécessaire, à savoir du salut de ton âme. Tu as été créé pour louer, honorer, servir ton Dieu et sauver ton âme. Et qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Tu as utilisé ce don, ce temps qui t'avait été donné. Tu l'as gaspillé pour courir après des images dans un miroir, sur un miroir. Tu as gaspillé tout ce temps que je t'ai donné pour courir après des choses matérielles au lieu de remplir ton âme de choses spirituelles. Et maintenant, tu te présentes à moi les mains vides. Il y a une autre parabole qui était utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ pour expliquer la même chose, la parabole des talents. Le maître qui confie un certain nombre de talents à ses serviteurs, à l'un il donne 5 talents, à l'un il donne 2 talents, à l'un il donne 1 talent. Et chacun leur fait fructifier ses talents. Et celui, lorsque le maître revient, il demande des comptes. Et ceux qui ont fait fructifier les talents sont comme les bonnes vierges, les vierges sages, elles sont introduites dans le banquet sacré, c'est-à-dire dans le paradis. Mais ceux qui n'ont pas voulu faire fructifier le talent qui leur avait été donné, bien ceux-là sont rejetés dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Alors, soyons, mes bien chers frères, ne soyons pas plutôt comme celui qui n'a pas fait fructifier le talent qui lui avait été confié ou les talents qui lui avaient été confiés. Et que nous n'ayons pas à entendre cette parole terrible de notre Seigneur Jésus-Christ. Éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel, préparé pour Satan et ses anges. Et qu'au contraire, nous puissions entendre cette douce parole de notre Sauveur, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé. Et cette réponse que le bon Dieu nous fera est introduite par cette parole, rends compte de ta gestion. Comme il nous faut, mes bien chers frères, méditer sur cette parole toute simple, en comprenant bien que plus j'ai reçu, plus il faut donner. En comprenant bien également que la grâce ne détruit pas la nature. Et donc il faut que je prépare en moi et dans les âmes qui m'ont été confiées, les âmes de mes enfants, les œuvres de nature que le bon Dieu attend dans mon âme pour que la grâce puisse venir faire fructifier ces œuvres de nature. Rends compte de ta gestion. Si ce soir, mes bien chers frères, le bon Dieu m'apparaissait, vous apparaissez, en vous prononçant, en vous posant cette question toute simple qu'il a le droit de nous prononcer, parce qu'il est celui qui nous a créés, celui qui est mort pour nous sur la croix, il a un droit sur nous par nature et par droit de conquête, parce qu'il est créateur et qu'il est rédempteur. Si ce soir le bon Dieu vous apparaît ou m'apparaît parce que je meurs cette nuit, j'ai une crise de cardiaque à 2h du matin, que le bon Dieu m'apparaît en me disant, mon enfant, rends compte de ta gestion. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je suis prêt à le voir? Est-ce que je suis prêt à paraître devant mon Créateur et mon Rédempteur? Ou est-ce qu'au contraire, je serai obligé de constater que mon âme est vide, que mes mains sont vides, Mais bien, cher frère, ce n'est pas lorsque nous serons morts qu'il faudra nous poser ce genre de questions. Il faut se la poser maintenant. Est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que je suis prêt à passer devant Dieu? Est-ce que si le bon Dieu vient me chercher ce soir, cette nuit, cette seconde qui arrive, est-ce que je suis prêt à me présenter devant mon Seigneur et dire, Seigneur, ce que le jeune Samuel disait, Seigneur, parlez, votre serviteur écoute. Afin que lorsque le Seigneur me pose cette question, rend compte de ta gestion, je puisse dire au Seigneur, voilà Seigneur, avec votre grâce, bien, j'ai essayé d'être plus ou moins fidèle. Bien sûr, c'est pas parfait, mais j'ai essayé d'être fidèle. Et avec votre grâce, je crois que je suis en état de grâce actuellement, au moment de ma mort. Alors le bon Dieu nous enverra sans doute, évidemment, pendant un temps en purgatoire, pour que nous fassions la purification, le grand nettoyage de nos âmes. Seul ce qui est parfaitement pur peut paraître devant Dieu. Mais au moins, je serai sûr d'être sauvé. Et donc, j'entendrai cette parole. Venez, les bénis de mon Père. Mais la parole la plus terrible qu'on ait à entendre, c'est l'autre parole. Éloignez-vous de moi, maudit. Être maudit de Dieu, qu'est-ce que ça doit être? Il faut penser à ces choses-là, mes bien chers frères. Surtout pendant ces temps de vacances, ces temps d'estive, ces temps d'été, il fait très chaud. Le démon fait des heures supplémentaires pendant les temps de chaleur. Le démon fait des heures supplémentaires pendant les vacances, les grandes vacances. Alors que la plupart des gens, malheureusement, ne pensent qu'à une seule chose, c'est à augmenter leur bronzage sur les plages de la Méditerranée, sans réaliser ni comprendre qu'un jour, ils iront bronzer en enfer. Il y a un bronzage très efficace en enfer. Mon Dieu, aide-moi à sortir de ma folie. Et si j'ai gaspillé mon temps jusqu'à présent, aide-moi maintenant à utiliser le temps qui m'est confié, qui m'est donné, qui m'est prêté par le bon Dieu. Qu'il nous faut rattraper le temps, dit notre Seigneur. Aidez-moi, mon Dieu, à utiliser ce temps pour être prêt quand vous viendrez. Dans l'épître du jour, l'épître aux Romains, il y a aussi des phrases bien utiles pour notre méditation. L'épître aux Romains, chapitre 8. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, mes frères. Que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, et alors vous vivrez. Aussi n'est-ce point l'esprit de servitude que vous avez reçu pour rester encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lequel nous crions « Abba, Père ». Et c'est cet esprit même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Eh bien, chers frères, si lorsque le bon Dieu me pose cette question, rends compte de ta gestion, je suis en état de grâce, alors je deviens co-héritier du Christ, c'est-à-dire que je vais participer à l'héritage que Dieu le Père a donné comme héritage à Dieu le Fils. Cet héritage, c'est le ciel. C'est là où mon Dieu nous attend. C'est là où le bon Dieu ne veut qu'une seule chose, la paix des âmes, dans l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que, étant en état de grâce, je suis donc héritier de Dieu et co-héritier du Christ? Ou est-ce que je suis malheureusement héritier du royaume de l'enfer? Héritier du démon, de Satan, de ses pompes et de ses œuvres? Alors, mes bien chers frères, si le découragement est au tournant, parce que finalement, je ne suis pas très prêt à passer devant le bon Dieu et à répondre à cette question, rends compte de ta gestion. J'ai envie de chercher quelqu'un qui est là, près du tabernacle, qui nous attend. Et ce quelqu'un, c'est notre Sainte Vierge Marie. Mettons-nous à ses pieds, supplions-la, ô très Sainte Vierge Marie. Vous qui êtes la Mère de Dieu, Donnez-moi la grâce de rattraper le temps perdu. Et si jusqu'à présent j'ai gaspillé toutes ces grâces que le bon Dieu m'avait données, que votre Fils m'avait données, donnez-moi maintenant, obtenez pour moi, mes bien chers frères, la grâce de rattraper ce temps perdu. Parce que si c'est vous qui m'y aidez, le bon Dieu verra que vous êtes dans la maison et du coup, tout ce que je ferai prendra une valeur extraordinaire parce que c'est fait par votre intermédiaire. Ne nous décourageons pas, mes bien chers frères, même lorsque nous devons méditer sur ces points qui ne sont pas très faciles à méditer. Comprenons que notre Sainte Vierge Marie est là justement pour nous encourager à être prêts, pour nous encourager à ne jamais, jamais, jamais nous décourager parce que la miséricorde du bon Dieu est plus grande que sa justice. Mais la miséricorde de Dieu ne détruit pas la justice divine. Nous demandons à la très Sainte Vierge Marie de faire pencher la balance du bon côté pour que nous puissions un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.